France Culture, les matins du samedi, Caroline Mombé.
8h30, la revue de presse de Natacha Triou. Bonjour Natacha.
Bonjour Caroline.
Des articles à lire dans la presse ce matin et puis d'autres plus fouillés que l'on peut lire ce week-end. Alors on l'évoquait à l'instant, ces dons par les grandes fortunes pour reconstruire la cathédrale fait polémique. Et c'est notamment la une de Libération ce matin, Notre-Dame et les milliardaires. Deux points, pourquoi ça cloche? Pourquoi cette générosité fait-elle polémique, en tout cas dans les rangs de la gauche, Natacha?
Parce que, je cite, ces grandes fortunes sont les grandes gagnantes des premières réformes fiscales du président des riches. Parce que certaines d'entre elles ne paient pas tous leurs impôts en France et qu'elles pourraient profiter de ces dons pour moins verser à l'État. J'ai l'impression d'avoir le classement des entreprises présentes dans les paradis fiscaux. Manon Aubry. S'ils ont trop d'argent, qu'ils le mettent à disposition de la collectivité. Il y a bien des urgences sociales. Philippe Poutou. Réaction à droite, polémique minable. Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF. Mercredi, le journal Marianne dénonçait un patrimoine washing sur le dos de l'État. Ce qui fait polémique, ce n'est pas la mobilisation, c'est la défiscalisation des dons à hauteur de 60%. Défiscaliser, cela signifie que l'État paye quasiment tous les frais et que tous les contribuables y contribuent, nous dit Marianne. Les deux grands PDG ont depuis annoncé qu'ils renonçaient à leurs avantages fiscaux, mais même Forbes se pose la question, combien vont nous coûter les dons des milliardaires? Le journal nous rappelle que le mécénat d'entreprise s'est multiplié par 10 en 15 ans et que la Cour des comptes appelle à mieux l'encadrer. Alors que le président devait annoncer lundi soir un coup de rabot sur les niches fiscales, la situation est donc des plus cocasses.
Et qu'en est-il de la dimension philanthropique du don?
On trouve des éléments de réponse dans les pages du Monde ce matin. Dans l'analyse « Suspicion autour d'un élan de générosité », on apprend que les mécènes ne sont que 49% à demander la déduction fiscale. De plus, ils financent en priorité des causes sociales plus que les projets culturels. Les aides à l'éducation et à la santé, les restos du cœur, la recherche scientifique. Mais pour Mediapart, cette notion de philanthropie est vue d'un autre œil avec deux textes. Celui d'Anand Giridharadas, ancien chroniqueur du New York Times. Il écrit « Des gens très riches qui devraient en réalité implorer notre indulgence pour leur évasion fiscale deviennent des héros parce qu'ils amènent des solutions aux problèmes qu'ils ont en partie causés. L'État français n'a pas assez de ressources à cause de ressources fiscales manquantes. Ces grandes fortunes sont en partie comptables de cette situation. » Il évoque un autre point. Aux États-Unis, le don et le mécénat ont conduit à la privatisation de pans entiers de la culture. Loin d'être un cadeau, à ses yeux, la logique du don perpétue l'hypercapitalisme. Le deuxième texte de Mediapart, pour la reconstruction de Notre-Dame, moins de souscriptions, plus de contributions, est signé Romaric Godin. Pour lui aussi, la logique du don est vicieuse. Elle est le symptôme d'une politique de désengagement de l'État. Emmanuel Macron a appelé à une grande souscription, mais pour Romaric Godin, il faut s'appuyer sur la solidarité nationale par la contribution, avec pourquoi pas, chiche, un ISF Notre-Dame. Promouvoir le don volontaire, c'est perdre de vue le principe de solidarité par l'impôt.
Allez, on quitte Notre-Dame, l'autre événement à la une ce matin, Natacha. C'est la publication du rapport Mueller et c'est en double page du journal Le Monde.
L'enquête sur l'ingérence russe dans la campagne présidentielle américaine de 2016 a été publiée ce jeudi. 2 ans de travail, 448 pages. Il n'y a pas assez de preuves pour inculper Donald Trump. Tandis que le président s'exonère de toute responsabilité et crie victoire, le doute plane toujours. Le procureur spécial décrit de nombreuses liaisons dangereuses avec les Russes. Pendant des mois, Trump n'a cessé de mentir. A-t-il tenté de faire obstacle à la justice? Lorsqu'il a pris la nomination du procureur spécial, il s'écria « Oh mon Dieu, c'est la fin de ma présidence, je suis foutu ». Mais là aussi...
Vous faites bien, Donald.
Merci. Mais là aussi, sur l'obstruction, pas assez de preuves solides et certains documents ont été détruits, nous dit le rapport. Le Monde nous dit que si Donald Trump est épargné par l'enquête, il n'est pas tout à fait innocenté.
La revue 21 consacre une longue enquête sur un ancien conseiller de Donald Trump, Arthur Finkelstein, enquête de 6 mois.
Décédé en 2017, Arthur Finkelstein est l'un des plus puissants conseillers politiques du XXe siècle. Il est sans doute celui qui a permis au plus grand nombre de politiciens de se faire élire au Congrès des États-Unis. De Nixon à Reagan, en passant par Trump, Let's Make America Great Again vient de lui. Lors des élections de 95 en Israël, il propulse Benjamin Netanyahu, même ses biographes écrivent « Tout ce que Bibi a fait pendant la campagne électorale était orchestré par Arthur ». Son dernier chef-d'œuvre, Viktor Orban. La revue 21 nous explique qu'il existe une méthode Finkelstein. C'est un tutoriel de populisme de droite moderne. Sa technique électorale, attaquer l'adversaire, lui faire perdre un nombre décisif de voix. Avec lui s'impose la technique du vote de rejet. Le conseiller politique est également un sondeur compulsif. Il passe beaucoup de temps à identifier les opinions des populations. Avec lui s'impose aussi une nouvelle façon de gouverner. Chaque décision est préalablement sondée. Les hommes politiques n'ont plus besoin de formuler des visions. Ils se contentent d'instrumentaliser ce qui agite le peuple. En période de campagne électorale européenne, c'est à méditer.